Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Un jour spécial où nous nous souvenons de la descente du Saint-Esprit sur les premiers disciples de Jésus. C'est une fête importante pour les chrétiens, car Dieu nous a fait un cadeau incroyable, sa présence dans notre vie. Ce matin, je vais souligner ceci. Dieu œuvre constamment dans notre vie et dans l'histoire pour que nous trouvions notre joie en sa présence, dans son intimité. C'est fort. Dieu met tout en œuvre, dans ta vie, dans ma vie, pour nous faire jouir de sa présence. Dieu le fait de plusieurs manières, et nous le découvrirons dans le livre du prophète Joël. Nous continuons ce matin notre série de prédications sur les prophètes de la Bible. Ils sont petits, mais costauds. Petits parce que leur message n'est pas long comparé aux prophètes comme Ésaïe ou Jérémie. Mais costauds, car le contenu de ces livres est riche et d'une grande importance. Selon Stuart, le livre du prophète Joël est l'un des livres les plus brefs de l'Ancien Testament, mais l'un de ceux qui nous dérange le plus et nous oblige à examiner nos cœurs. Wow! Petit, mais costaud. Que Dieu nous parle ce matin et façonne notre cœur à travers ce petit livre musclé qui nous invite au changement. Le livre commence ainsi. Parole que l'Éternel a adressée à Joël, fils de Pethuel. Ici, Joël se présente simplement. Il ne dit pas grand-chose sur lui-même. Son père, Pethuel, est inconnu. L'intérêt du prophète pour Jérusalem et pour Juda, dans la suite du livre, suggère qu'il a dû exercer son ministère dans le royaume de Juda. L'époque de ce ministère, quant à elle, demeure très discutée. Les dates proposées vont du 9e siècle avant Jésus-Christ, sous Joas, donc 835 à 796, au retour de l'exil, après les ministères d'Agé et de Zacharie. Le livre mentionne que la parole du Seigneur a été adressée à Joël. Et là, on a quelque chose qui nous indique tout simplement que ce message, son message, vient de Dieu. C'est un prophète. Je le rappelle encore qu'un prophète est un porte-parole de Dieu, revêtu de son autorité et de son esprit pour communiquer son message aux hommes et aux femmes. Juste après le premier verset, Dieu demande aux dirigeants et aux habitants du pays d'écouter attentivement ce qu'il va leur dire et même de transmettre son message aux générations suivantes. Le livre de Joël est donc d'une grande importance, même pour nous aujourd'hui. Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu œuvre constamment dans ta vie, dans ma vie et même dans l'histoire pour que nous jouissions de sa présence. Nous verrons maintenant comment Dieu s'y prend. Allons-y. Premièrement, Dieu nous amène à la repentance, à une vraie repentance. Le livre du prophète Joël commence par une sécheresse et une terrible invasion de sauterelles qui ravagent le pays de Juda et toutes ses récoltes. On voit cela dans le verset 4 et verset 19 à 20. Face à ces terribles ravages, les ivrognes sont invités à se réveiller, pleurer, à hurler, car il n'y a plus de vin. Ce qui est bizarre, hein. Joël est un peu, voire beaucoup, ironique là. Le peuple est invité à se lamenter dans le deuil et les larmes. Les prêtres sont en deuil car ils ne peuvent plus faire de sacrifices, ils ne peuvent plus servir Dieu comme avant. Les laboureurs ont honte et les cultivateurs hurlent leur désespoir car leur récolte est perdue. Que faire face à un tel désastre? Joël appelle aux jeunes. Il appelle le peuple à jeûner, c'est-à-dire à s'abstenir de manger pendant un temps pour prier et crier à Dieu. Joël reconnaît que ce désastre n'est rien d'autre que le jugement de Dieu sur l'infidélité de son peuple. La sécheresse, comme l'invasion de sauterelles, fait partie des malédictions prévues par la loi en cas de transgression de l'alliance de Dieu. On le trouve cela dans Deutéronome chapitre 28, verset 22, et dans d'autres versets. C'est ainsi que Joël appelle au jeûne et à la prière, à des prières de lamentation, dans les versets 13 à 14 du chapitre 1. Je cite, « Saignez-vous, vous les prêtres, d'une toile de sac, lamentez-vous, hurlez-vous tous qui officiez devant l'autel, venez passer la nuit vêtus d'un habit de toile de sac, vous qui servez mon Dieu, parce qu'il n'y a pas plus d'offrande, ni de libation qui arrive dans le temple de votre Dieu. Publiez donc un jeûne et convoquez une réunion cultuelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel, de votre Dieu. Suppliez l'Éternel. » Comme je viens de le lire, la situation est si grave que les prêtres sont appelés à se lamenter, à hurler, à passer la nuit en habit de deuil. Ils doivent aussi publier un jeûne, rassembler les chefs du peuple et les habitants au temple de Dieu pour se lamenter sur la sécheresse et les ravages causés par les sauterelles. Ils doivent exprimer ici leur douleur et supplier Dieu de leur pardonner. L'attitude de supplication et de repentance devant Dieu est urgente car des choses encore plus horribles, terribles, sont sur le point de se produire. Joël dit dans le verset 15 du chapitre 1, « Hélas, quel jour ! Le jour de l'Éternel approche comme un fléau dévastateur, déchaîné par le Tout-Puissant. Il va venir !» Joël dit au peuple de Dieu qu'un jugement encore plus terrible est sur le point d'arriver. Il est proche. Il parle du jour de l'Éternel, un jour de destruction. Joël utilisera l'expression « le jour de l'Éternel ». 5 fois, il utilise cette expression dans son livre. Et dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel, celui au cours duquel l'Éternel se manifeste, est aussi souvent un jour de jugement qu'un jour de bénédiction et de lumière. Après avoir proclamé l'imminence du jugement de Dieu, Joël lui-même intercède dans les versets 19 à 20. On entend ici un cri. « C'est vers toi, Éternel, que je pousse des cris. Oui, car le feu dévore les pâturages de la steppe et la flamme consume tous les arbres des champs. Et même les bêtes sauvages vers toi se tournent, car les cours d'eau se sont taris. Le feu dévore les pâturages de la steppe. » Vous avez entendu ? Même les bêtes sauvages vers toi se tournent. Je ne savais pas que les bêtes pouvaient prier Dieu. Elles crient à Dieu là, elles ont besoin de lui. Joël dit alors au début du chapitre 2 que le jour de l'Éternel sera un jour de ténèbres, où les peuples seront saisis d'angoisse, où la terre tremblera, le ciel sera ébranlé, le soleil et la lune seront plongés dans l'obscurité et les astres perdront leur éclat. C'est à partir du verset 12 que Dieu appelle son peuple à revenir à lui de tout son cœur. Il l'appelle à changer d'attitude, son attitude intérieure. Il appelle tout le peuple à jeûner, à prier, à pleurer, à se lamenter, à supplier Dieu, à déchirer même leur cœur devant lui. Et quand il dit de ne pas déchirer leurs vêtements, mais leur cœur, c'est parce qu'il ne veut pas de faux semblants. Il ne veut pas une fausse repentance. Écoutez, le chapitre 2, le verset 13, ici on a le pourquoi de la repentance du peuple de Dieu. Le pourquoi la repentance du peuple de Dieu peut-elle changer leur situation dramatique ? Nous voyons le pourquoi de cela. La réponse est touchante. Déchirez vos cœurs, votre cœur, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, et il est compatissant, lent à la colère, Il est riche en amour. Il renonce volontiers au malheur dont il avait annoncé. Menacé. Revenir à Dieu n'est possible que parce que Dieu est leur Dieu. Parce qu'il est plein de grâce, plein de tendresse, de compassion, lent à la colère et riche en amour. Il est prêt à renoncer à ses menaces de jugement. Dans cette situation, Joël appelle les prêtres à prier pour le peuple car ce sont eux qui ont la fonction de médiateurs représentant le peuple devant Dieu. Il leur demande, il leur donne même le contenu de leur prière au verset 17. Je cite, « Qu'ils prient ainsi, ô Éternel, aie pitié de ton peuple, n'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur ni aux railleries d'autres peuples. C'est pourquoi, dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Et au verset 18 du chapitre 2, la situation change enfin. Joël dit, « Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. » Après le jeûne et les prières de lamentation et de repentance, Dieu fait des promesses. Il promet à son peuple la sécurité. Verset 20, des récoltes fructueuses, verset 19, 24, des pluies abondantes, verset 23, ainsi qu'une relation de proximité avec son peuple, verset 26. Même les animaux bénéficieront de l'harmonie retrouvée entre Dieu et son peuple, verset 22. Ce que nous avons vu ensemble jusqu'à présent nous rappelle ceci. Dieu envoie le jugement et corrige son peuple parce que sa justice l'exige. Mais il y a un mais. Il n'y prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à juger son peuple. Il préfère le bénir. Il y a un élan de Dieu à vouloir bénir son peuple. On trouve cela bien résumé dans Lamentations chapitre 3, verset 33, qui dit ceci, « Ce n'est pas par plaisir qu'il, donc Dieu, humilie et qu'il afflige les humains. Dieu ne veut pas juger, mais il veut sauver et bénir son peuple. » Après avoir annoncé toutes les bénédictions qu'il va donner à son peuple, Dieu révèle son but dans le verset 27 au chapitre 2. Je cite, « Et vous reconnaîtrez que je suis, moi, au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. » Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Waouh ! Dieu qui a promis de tout restaurer veut que son peuple reconnaisse sa présence à ses côtés. La présence de Dieu a toujours été là, depuis la sortie d'Égypte. Dieu est resté fidèle à son alliance envers son peuple. Il les appelle également à lui rester fidèle. Dieu doit être aimé. Il doit être adoré, servi par-dessus tout, car il est le seul vrai Dieu. Que faisons-nous de tout cela pour nous aujourd'hui? Dieu, je l'ai dit, travaille constamment dans ta vie, dans ma vie et dans l'histoire pour que nous jouissions de sa présence. Dieu agira toujours pour sa gloire et notre bien. Il mettra tout en œuvre pour que nous vivions dans son intimité. Mais il est impossible d'avoir une relation avec Dieu sans se repentir, sans lui demander pardon quand nous sommes dans le péché. Nous devons reconnaître nos fautes dans sa présence. Pour vous qui n'êtes pas encore venus à Dieu ou qui n'avez pas encore l'assurance de sa présence et de la vie éternelle, sachez une chose, Dieu agira toujours, d'une manière ou d'une autre, pour vous attirer à lui. Il veut vous sauver de la mort et de l'enfer. Pour cela, il vous éclairera, afin que vous compreniez la gravité du péché qui vous éloigne de lui, qui vous sépare de lui éternellement. Qu'est-ce que le péché? Bonne question. C'est notre désobéissance à la loi parfaite de Dieu. C'est notre rébellion profonde envers Dieu. Dieu agira dans votre histoire, pour vous aider à reconnaître vos fautes et vous montrer que vous avez absolument besoin de son pardon, de lui pour enfin retrouver sa présence, recevoir la vie éternelle, expérimenter, oui, sa présence dans votre vie. Pour nous, chrétiens, Dieu ne nous laissera pas tranquilles si nous avons péché contre lui et nous n'avons pas demandé pardon à Dieu. Il ne nous laissera pas tranquilles si nous nous livrons au péché. Nous ressentirons de la culpabilité, de la tristesse. Nous ne nous sentirons pas bien dans la présence de Dieu, car notre conscience nous condamnera. Dieu nous montrera que quelque chose ne va pas. Il nous révélera notre péché afin que nous revenions à lui, suivions ses voies et jouissions de sa présence. Demander pardon à Dieu pour nos fautes est essentiel pour être pardonné et faire l'expérience de sa présence dans notre vie. Il est important de se rappeler ceci. Un vrai chrétien mène une vie marquée par la repentance. Si vous êtes chrétien et que vous vous repentez rarement, il y a un problème. Un vrai chrétien mène une vie marquée par la repentance. C'est une vérité très profonde. Le péché dans notre vie entravera toujours notre relation avec Dieu. Chaque fois que nous tombons dans un péché, nous avons besoin du pardon de Dieu. Le chrétien ne cherche pas le pardon de Dieu pour recevoir à nouveau la vie éternelle ou lui appartenir une seconde fois ou une millième fois. Non. Le chrétien revient à Dieu, confesse ses fautes et demande pardon à Dieu afin que rien ne vienne entraver sa relation avec lui. Une belle promesse que plusieurs connaissent par cœur se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Merci Seigneur pour cette vérité, pour cette promesse. Attention à une chose. La repentance ne consiste pas seulement à reconnaître que nous avons péché ou désobéi. Et juste, je te demande pardon, j'ai péché. Ce n'est pas juste ça. C'est une tristesse qui vient de Dieu et qui doit nous pousser à rejeter tout ce qui déplaît à Dieu, à changer notre conduite. La vraie repentance nous pousse au changement, à faire ce qui plaît à Dieu. La vraie repentance produit du zèle pour vivre dans la sainteté, pour plaire à Dieu. Que Dieu nous aide à vivre cette vraie repentance toutes les fois où nous tombons dans le péché. Dieu agit en permanence dans notre vie et dans l'histoire pour que nous vivions en sa présence. Comment s'y prend-il ? Deuxièmement, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Pentecôte ! Voici ce que Dieu dit au chapitre 3 et les versets 1 à 2. « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. » Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Amen. Pierre a mentionné ce même texte. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ce jour-là, cette promesse s'est accomplie. Dieu a tenu sa promesse. Imaginez, autrefois, seules quelques personnes recevaient l'Esprit de Dieu. Et pour des tâches particulières. Dans l'Ancien Testament, être investi de l'Esprit n'était accordé que par des individus isolés. Les prophètes, par exemple, il y avait aussi les sacrificateurs, les rois, les juges, même les artistes et les artisans appelés par Dieu à fabriquer les meubles et les décorations pour le tabernacle. Mais dans notre texte, Dieu promet d'envoyer son esprit sur tout le monde, comme la pluie. Le texte précise quelque chose de très fort. L'esprit de Dieu va être donné, pas juste aux adultes, mais aussi aux jeunes. Et les jeunes ? Aux fils, aux filles, aux personnes âgées, Amen. Même aux serviteurs, aux servantes, aux esclaves. Dieu n'a pas de chouchou. Il ne fait pas de discrimination sociale, ni de favoritisme. Dieu veut donner son Saint-Esprit à tous. Il veut habiter en tous. Il veut agir en tous. Il veut une relation intime et profonde avec nous tous. Dans la prophétie de Joël, Dieu exprime clairement son désir. Il veut œuvrer puissamment à travers tous ceux qui ont reçu son Esprit Saint. Il veut agir à travers des visions, des rêves, des révélations, des prophéties dans un contexte missionnaire et de fin des temps. Selon la prophétie de Joël, Dieu fait de tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, on pourrait dire, ses porte-parole. Imaginez un peu, nous sommes tous des porte-parole de Dieu. Ça, c'est énorme. Chaque chrétien a reçu le Saint-Esprit pour donner des paroles qui viennent de Dieu. Nous sommes donc inspirés par Dieu. Nous devrions être sans cesse inspirés par Dieu pour consoler, édifier, encourager, fortifier, relever ceux qui sont abattus, témoigner de notre foi, de notre amour pour Dieu. Mes amis, quel privilège immense! Mais derrière tout privilège, il y a des responsabilités. Nous pouvons parler de la part de Dieu dans l'Église et dans le monde. Est-ce que nous en sommes conscients? Comment recevoir ce cadeau extraordinaire qu'est le Saint-Esprit? Joël donne cette réponse dans le chapitre 5, verset 5. Vous allez certainement reconnaître ce texte, ce petit verset. « Tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. » Et l'apôtre Paul a recité ce même texte d'une manière différente dans Romains chapitre 10, verset 13. « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. » L'Éternel, le Seigneur dont parle Paul, c'est Jésus-Christ. Pour rendre la présence, sa présence accessible à tous, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, lui-même. Lui-même. C'est pourquoi Dieu, en la personne de Jésus-Christ, est venu sur cette terre pour souffrir et mourir à notre place. Quelle bonne nouvelle! Dieu a fait l'impossible pour toi, pour moi, pour moi, afin que nous fassions l'expérience de la présence de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit dans votre vie, invoquez le Seigneur. Invoquez Jésus-Christ. Venez à lui, placez votre confiance en celui qui est le seul sauveur. Par sa mort et sa résurrection, nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu. Dieu vient jusqu'à habiter en nous par son esprit pour une relation intime avec nous et pour que nous trouvions notre plaisir en lui. Nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit, ne négligeons pas sa présence dans notre vie. Oh, combien nous pouvons facilement négliger sa présence au quotidien. Ne négligeons pas la relation avec Dieu. Si nous ne passons pas chaque jour un peu de temps en sa présence, c'est que nous préférons le passer à faire des choses qui nous paraissent plus importantes que lui. Ne négligeons pas la présence de Dieu. Ne pas négliger la présence de Dieu, c'est parler régulièrement avec Dieu. C'est être conscient qu'il est constamment avec nous. C'est être sensible à la voix du Saint-Esprit en moi, au quotidien. C'est essayer de lui plaire tout au long de nos journées, parce que nous savons qu'il est là. Pour nous aider à ne pas négliger la relation avec Dieu, nous pouvons prendre rendez-vous avec lui, comme nous le ferions avec une personne importante, en planifiant ce moment. Certains le planifient le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Prenons un temps avec Dieu. Si ce n'est pas encore une habitude, une chose que nous pouvons faire, c'est commencer par quelques minutes d'intimité avec Dieu et laisser les choses se développer petit à petit. Parce que quand on commence à dire « je vais passer une heure demain dans la présence de Dieu », ben, et puis on se dit « tous les jours », ben, très vite, on se rend compte que l'objectif était un peu trop haut. Commençons par des petits commencements. Autre chose qui peut nous aider, ça rejoint ce point, c'est privilégier la qualité plutôt que la quantité de temps avec Dieu. Choisir aussi un endroit précis pour notre rendez-vous peut aider. Ça peut être un endroit où nous pouvons prier. Peut-être que pour certains, ce qui vous aide, c'est de prier à voix haute. Alors il faut trouver un lieu où vous n'êtes pas gêné. Personne ne va vous gêner pour pouvoir prier à voix haute et vous sentir à l'aise. Avoir un lieu où on n'est pas dérangé. Ça demande de mettre off ou sur mode avion notre smartphone, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi avoir un plan de lecture ou un livre de méditation biblique. Un plan de lecture donc de la Bible, afin de ne pas chercher « mais qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui ?» dans ce rendez-vous avec Dieu. Nous pouvons aussi avoir un carnet avec nos sujets de prière, pour ne pas les oublier. En tout cas, ça m'aide beaucoup. J'ai une application sur mon smartphone et je regarde les sujets que j'ai notés et ça m'aide à prier dans sa présence. Nous pouvons aussi nous habituer à remercier Dieu pour toutes les plus petites choses, comme les grandes, qu'il nous donne au quotidien. Je me rappelle, pour se rappeler que Dieu est présent en eux et avec eux, certaines personnes ont utilisé une alarme qui sonne toutes les heures. C'est spécial, hein, n'est-ce pas, de faire ainsi. Mais peut-être que ça peut nous aider. Trouvons ce qui nous aide pour nous rappeler que Dieu est là. Concernant notre relation avec Dieu, j'ai beaucoup aimé ce que Rick Warren a écrit au sujet des émotions. Je cite, « Ne jugez pas de la valeur de votre temps d'intimité avec Dieu en fonction de vos émotions. Les émotions sont peu fiables. Nous pouvons passer si vite du rire aux larmes. Si vous recherchez la présence de Dieu seulement lorsque vous en ressentez le désir, alors le diable fera en sorte que vous n'en ressentiez jamais l'envie. Certains jours, vous ne ressentirez aucun désir de vous approcher de lui. D'autres jours, vous vous imaginerez être transporté soudain jusqu'au troisième ciel. Ne vous attendez donc pas à vivre un moment d'extase chaque matin ou à chaque moment que vous passez avec Dieu. Même si vous ne sentez aucun frisson courir dans votre dos, cela ne veut pas dire que Dieu soit absent de vos rencontres. C'est pour ça qu'avec la chorale, j'ai pris le temps de changer dans le chant que nous avons chanté. Seigneur, je sens que tu es là. Ce n'est pas tout le monde qui sent. Mais j'ai changé, je crois. Mais il peut y avoir cette progression dans la présence de Dieu où nous commençons à sentir sa présence. Dans le sens que nous ressentons son amour, nous ressentons sa grâce. Nous ressentons sa consolation, nous ressentons sa paix. Mes amis, ne négligeons pas la présence de Dieu dans notre vie. Dieu nous poursuit. Dieu, c'est comme s'il nous courait après, avec l'ardent désir que nous jouissions de sa présence. Et comment s'y prend-il? Troisièmement, Dieu promet le paradis. Avant l'annonce du paradis, le prophète Joël annonce un jour de jugement dans un avenir proche. Il décrit surtout le jugement de Dieu, ce jugement qui viendra à la fin des temps. Dieu jugera toutes les nations du monde. Les nations ennemies seront aussi jugées, quand je dis les nations ennemies, ennemies du peuple de Dieu. Dieu fera justice. Il éliminera tout le mal et mettra fin à la souffrance sur la terre. Amen. Ensuite, voici la promesse de Dieu dans Joël, donc chapitre 4, verset 18, et je vais juste lire le verset 18 et une partie du verset 21. « Alors, en ce jour-là, le vin nouveau coulera des montagnes, pas pour les ivrognes, et les coteaux ruisselleront de lait. Dans tous les torrents de Juda, l'eau coulera, et le temple de l'Éternel jaillira une source. » Donc du temple de l'Éternel jaillira une source et elle arrosera le val des Acacias. Et verset 21, juste à la fin, l'Éternel habitera en Sion. Il y a ici une source jouissante du temple, enfin jaillissant pardon, du temple et qui évoque vraisemblablement l'esprit et son œuvre purificatrice. Cette œuvre va permettre au peuple de Dieu de vivre dans sa présence de manière plus profonde que sous l'ancienne alliance. Le livre de Joël s'achève sur la note de la présence de l'Éternel en Sion avec son peuple. C'est cette présence que Jésus-Christ est venu apporter, les amis. C'est la présence de Dieu dont les croyants bénéficient par l'Esprit depuis la Pentecôte. C'est la présence de Dieu qui coule du temple qu'est Jésus. Les chrétiens jouiront de bien plus encore sur la nouvelle terre, lorsque le fleuve d'eau de la vie jaillira du trône de Dieu et de l'agneau qui est Jésus-Christ. Dieu agit chaque jour pour que nous fassions l'expérience de sa présence dans notre vie quotidienne. Au point qu'un jour, nous jouirons de sa glorieuse présence au paradis, dans un nouvel Éden. Une nouvelle création nous attend. Dieu vivra en nous et au milieu de nous pour l'éternité. Amen. Puisse cette vérité nous enthousiasmer, les amis, et nous faire attendre avec impatience le retour de Jésus-Christ. Je conclus, Dieu est constamment à l'œuvre dans ta vie, dans ma vie et dans l'histoire pour que nous jouissions de sa présence. Ça, c'est la Pentecôte. Comment s'y prend-il ? Dieu nous amène à la repentance, une vraie repentance. Dieu nous donne le Saint-Esprit par Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et Dieu promet le paradis où sa présence coulera, jaillira et en nous et au travers de nous. Amen. Dieu notre Père, tu nous aimes tellement que tu ne te lasses pas d'agir dans notre vie et dans l'histoire pour que nous fassions l'expérience de ta présence dans notre vie quotidienne. Merci, car lorsque nous tombons dans le péché, tu cherches toujours à nous ramener à toi, à nous amener à la repentance, car tu veux nous pardonner et tu veux que rien ne freine notre relation avec toi. Merci parce que tu attires à toi tous ceux qui ne te connaissent pas encore pour leur offrir la présence de ton esprit. Tu promets à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus le paradis où ta présence sera pleinement manifestée. Notre Dieu, que nous vivions en cherchant constamment à te plaire. Et lorsque nous tombons dans le péché, que nous te demandions immédiatement pardon pour changer de conduite et pour revenir à toi. Seigneur, je prie pour celles et ceux qui luttent contre un péché, qui les attire et les éloigne de toi. Donne-leur ta force, donne-leur la victoire. Aide-les à trouver plus de plaisir dans ton intimité et dans ton immense amour manifesté en Jésus à la croix. Notre Dieu, aide-nous à ne plus négliger ta présence, mais à développer notre intimité avec toi, jour après jour, et à être remplis de la joie d'être si chèrement aimé de toi. Nous prions enfin que le paradis qui nous attend continue à nous enthousiasmer et à nous encourager chaque jour. Nous qui expérimentons déjà un avant-goût de ta présence, nous avons hâte de te rencontrer et de jouir pour l'éternité de ta glorieuse présence. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.